se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC.
GG, 7 et match.
Parmi les défenseurs, ceux qui sont contre la réforme des retraites, il y a tout un courant aujourd'hui qui dit ça s'inscrit dans l'histoire où il faut aujourd'hui réaliser que le travail n'est plus la valeur cardinale qui doit nous guider. C'est plutôt moins produire, moins consommer, moins travailler pour sauver la planète. C'est notamment Émeric Caron qui le dit, le député Émeric Caron. La réforme des retraites est une question écologique, dit-il, c'est pour la planète. Aussi Sandrine Rousseau qui le dit. Alors, est-ce qu'effectivement aujourd'hui, on doit s'inscrire dans ce nouveau mouvement, moins produire, moins consommer, moins travailler? Une équipe dit oui, une équipe dit non. L'équipe qui dit non, Jean-Baptiste et Olivier. L'équipe qui dit oui, Barbara et Bruno. Bruno, c'est toi qui donne le coup d'envoi. T'as 60 secondes, c'est parti.
Alors après, il est évident que dès que Sandrine Rousseau et Émeric Caron posent quelque chose sur la table, ils sont tellement clivants que la plupart des gens ne voient que le messager et pas le message. Mais il est évident qu'aujourd'hui, et on l'a vu pendant le Covid, moins produire, moins consommer et moins travailler ou partager le travail permet à rendre le monde, la société, l'environnement meilleur. Et c'est comme ça. Et c'est une évidence, on l'a vu pendant le Covid. Et moi, je parlerai pas de droit à la paresse, parce que si tu dis ça, tu vas monter sur la table en disant, les gens, ils veulent rien foutre. Non. Mais droit à la respiration. Je pense que ta vie ne doit pas être faite que pour travailler. Et qu'à un moment donné, si tu peux déjà dans une semaine travailler que 30, 32 heures, comme ça, tu partages le travail avec quelqu'un d'autre. Et comme ça, tu fais de l'embauche. Donc, en générant de l'embauche, tu génères des revenus et des cotisations sociales et ainsi de suite. Donc après, tu mets ton système de retraite pérenne. Mais moi, je trouve qu'on a le droit à avoir une respiration et qu'on doit avoir, on a aussi le droit à penser à une société autre que le travail, que d'aller se casser le dos dans la machine et qu'à un moment donné, on doit pouvoir vivre autrement. Et moi, je trouve vraiment que de poser ça sur la table, c'est un débat de société qui doit être donné aujourd'hui.
Réponse Jean-Baptiste Djebari.
Ce qui est intéressant avec Émeric Caron, c'est qu'il adopte toujours la position de l'homme blanc, riche, occidental, qui dit aux pauvres comment il doit vivre. Et ça, c'est assez fascinant. Et en fait, les faits sont assez têtus. Mondialement, il y a une démographie qui va augmenter. Donc, il va falloir, certes, mieux produire, mais en fait, plus produire. Émeric Caron, il veut qu'on consomme moins, ce qui n'est possible que dans les pays riches auxquels il appartient. Puis, Émeric Caron, il veut quand même, globalement, qu'on ait plus de liens, mais il veut plus qu'on voyage. Donc, Émeric Caron, c'est la caricature de la bien-pensance et de l'inaction politique. Moi, je suis fondamentalement.
Il pourrait être à Renaissance alors.
Je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler, c'est un peu ça, d'accord. Ouais. Après, le problème, c'est que Émeric Caron ne nous explique pas comment on continue à financer notre système qui repose sur le travail, puisque c'est grâce à des gens qui travaillent qu'on paye aujourd'hui les gens qui ne travaillent pas à la retraite, hein. C'est tout le débat en ce moment, le système par répartition. C'est grâce à des gens qui travaillent, je rappelle que 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des gens qui travaillent, hein. Donc tout repose finalement sur les gens qui travaillent, c'est grâce à ça qu'on peut encore avoir des hôpitaux, des écoles, des profs, des policiers, des magistrats. Donc l'idée de moins produire, moins consommer, moins travailler, c'est aussi moins de création de richesse. Et donc si il y a moins de richesses, ben on va tous s'appauvrir. Alors peut-être qu'on sauvera la planète, mais on sera tous plus pauvres, on sera donc moins bien soignés, on sera donc moins bien protégés, on pourra évidemment plus déplacés. Ben si, il dit. Alors, et puis, dernièrement, il dit il faut aussi répartir ton travail. C'est la fausse bonne idée. Tous les économistes ont démontré, les 35 heures n'ont pas créé d'emploi du tout.
Joué le jeu.
Le partage du travail, ça n'existe pas.
Parce
ça marche
que les
pas comme ça.
Les employeurs n'ont pas joué le jeu.
Ça marche pas comme ça. Un médecin, il va pas soigner du lundi au mardi, et puis ensuite, il y a un autre médecin qui viendra le remplacer le mercredi. Ça ne marche pas comme ça. Il y a pas des ouvriers qui travaillent deux jours, et puis après d'autres ouvriers qu'il faut former, etc., qui viendraient. Ça ne marche pas comme ça.
Ça s'appelle les 3-8.
Non. Le partage du travail, ça ne fonctionne pas. Et ça a été démontré, notamment en France. Les 35 heures, c'est quelque chose qui n'a jamais été copié nulle part ailleurs. 35 heures généralisées. Après, tu peux le faire par entreprise, ça, c'est autre chose. Mais 35 heures pour tout le monde, personne n'a copié le modèle français.
Il y a des pays où ça travaille moins.
Dans son tweet, Émeric Caron n'a pas dit il ne faut pas consommer, il ne faut pas produire, il ne faut pas travailler. Il a dit il faut moins. Mais si vous considérez que on peut continuer à surconsommer, à surproduire et à demander à une catégorie de la population, et notamment la population des pays en voie de développement, de surtravailler pour en plus ne pas vivre correctement, parce que moi, en Afrique, en Amérique du Sud, en Chine, dans un pays totalitaire, il y a des gens qui surtravaillent pour en plus.
Aujourd'hui, il y a 50 ans, je
viens quand même. Ils vivent pas mieux, si tu me parles uniquement de l'espérance de vie parce qu'on vaccine, d'accord. Mais moi, je te dis, ils mangent moins bien, et en plus, il y a des maladies. Quand vous avez une entreprise comme Total qui vient s'installer en Ouganda et en Tanzanie pour aller foutre des pipelines qui sont en train de détruire l'écosystème, qui sont en train de détruire des villages et qui sont en train de détruire des sociétés, mais vous allez leur dire, mais vous serez content, vous mangerez plus de viande, c'est-à-dire au lieu d'en manger.
Les Chinois vivent moins bien qu'il y a 60 ans.
Non, mais le Chinois, c'est un grave problème. Excuse-moi, 1,5 milliard de Chinois. Si tu as 1,5 milliard de Chinois qui se mettent à tous bouffer de la viande comme les Chinois de Shanghai, on va avoir un gros problème. Parce que je vous rappelle quand même que l'élevage. Non, je vous explique juste une chose. Il y a un moment donné, la planète a des ressources. Les ressources ne sont pas inépuisables. Oui. En particulier, je parle même pas des énergies fossiles, uniquement de la question de la ressource carnée. Vous croyez sincèrement qu'on va pouvoir faire bouffer 8 milliards d'humains à manger de la viande?
Aujourd'hui, pour les pays occidentaux,
aujourd'hui, l'élevage,
c'est un truc de riche. En fait, il a toujours la position
il est député.
Émeric Caron est député en France. Si déjà la France, qui est un des pays,
excuse-moi,
je peux terminer. La France est une des grandes agricultures européennes. Si la France donnait l'exemple et faisait notamment une grande conversion vers le développement d'une autre forme d'élevage, un élevage qui ne serait plus un élevage intensif.
Sans doute la
plus rappelle quand même
au monde.
Que 8 Français sur 10 sont contre l'élevage intensif.
Donc vous n'avez pas compris que la France n'est pas une île et qu'on dépend tous les uns des autres.
Oui, c'est ça, bien sûr. Et bien justement, comme on dépend tous les uns des autres, la France, il y a eu des moments dans son histoire. Excuse-moi, Jean-Baptiste.
Mais on ne comprend plus rien là.
Bah oui, parce que je suis tout le temps systématiquement.
Mais vas-y, je sais bien. Attends, finis.
À un moment donné, il y a eu un moment où dans son histoire, la France, elle a été effectivement un peu au-dessus des autres, où elle a fait des choses qui étaient différentes. Il y a eu des changements sociétaux où la France, elle a montré une voie. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas montré la voie, je suis d'accord avec toi.
Parce que c'est quand même quand la France est puissante et prospère qu'elle peut imposer ses valeurs et ses intérêts.
Alors je vais te dire, en 1789, elle n'était pas puissante et prospère. Quand elle a fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'était pas puissante et prospère. La France, elle était endettée jusqu'à l'os. Elle n'en pouvait plus. Et le pays était complètement déstructuré.
Les États-Unis existaient. 1776, la déclaration.
Ils déclaraient.
C'est pas vrai, on est un empire. C'est l'idée
en 1789,
que
on était un empire.
La France. Bah oui, on est dans un empire colonial encore, pardon.
On n'était pas l'empire colonial qu'on est devenu après. C'est-à-dire que plus on a été un empire colonial, moins on a été riche, excuse-moi.
La France précaire que préconise Émeric Caron, elle va imposer rien du tout.
Mais c'est pas une France précaire, c'est juste un autre modèle de société. La question, elle est exactement ce qu'a dit tout à l'heure Bruno, c'est une question de débat sur un modèle de société. Alors, vous voulez rester dans la surproduction, la surconsommation,
et
continuer à bouffer de la viande, continuer à aller produire des choses qui sont en train de tuer non seulement la planète, mais nos corps. Tu as une étude, anglaise, qui te montre.
On peut pas te couper parce que tu n'arrêtes pas de parler.
Je termine juste là-dessus. Tu as une étude anglaise qui te montre qu'on a une augmentation sur les 30 dernières années de pratiquement 40% des cancers.
Simplement. C'est la mi-temps.
C'est dû à quoi?
D'accord. La France est l'un des pays les plus vertueux en matière d'écologie. Ça, c'est factuel d'Europe. Mais on est toujours en train de se dire, ah, nous, on est les pires. On a sans doute une des agricultures les plus vertueuses d'Europe. Oui, en France, bien entendu. C'est factuel. En termes d'émissions de CO2, on est plutôt un exemple.
C'est fini. C'est la mi-temps. S'il vous plaît, moins produire, moins consommer, moins travailler. Une équipe dit oui, une équipe dit non. À votre avis, qui se détache là dans le contexte que l'on connaît là en ce moment? Eh bien, vous saurez ça dans 3 minutes.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Produire, moins travailler, moins consommer, moins travailler, moins produire, moins consommer. C'est ce que dit Émeric Caron. Est-ce que c'est le modèle de société auquel on doit réfléchir? Oui ou non? Attention, on va regarder la consultation puisqu'on a une équipe qui dit oui, une équipe qui dit non. Qui peut l'emporter? Est-ce que c'est la team Barbara Bruno, la team Jean-Baptiste Olivier? C'est parti, on regarde tout de suite. Il y a d'avenir, Olivier. Le souping n'est pas foutu.
Je pensais que Barbara aurait convaincu.
Mais non, mais parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire.
Les gens comprennent parfaitement que votre modèle...
Je pense qu'Émeric Caron, il mettrait tout le monde d'accord si, au lieu de dire il faut produire moins, il disait il faut produire mieux, différemment, ou mieux, ou consommer mieux, et travailler mieux. Et je pense que tout le monde est d'accord. On est tous d'accord qu'il faut produire différemment. D'ailleurs, les entreprises commencent à s'y mettre et qu'il faut consommer différemment. On essaie, par exemple, de consommer local, etc. C'est vrai, on regarde, on préfère acheter des tomates françaises que des tomates en serre espagnole.
Arrêtez la fast fashion.
Travailler mieux. On est tous d'accord qu'il faut peut-être redéfinir le sens du travail. Il y en a marre des petits chefs faillants, etc. Mais lui, il dit moins.
Parce que c'est un tweet.
C'est monsieur moins
donc,
proche.
Donc, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Bruno. À partir du moment où c'est Sandrine Rousseau, Émeric Caron, il y a une espèce de réflexe pavlovien de rejet, alors que vous voyez que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit.
Non, pas ce qu'il dit.
Parce que c'est ce qu'il dit, Émeric. Émeric, il dit il faut consommer différemment, attendez. Il faut avoir un autre rapport au vivant. Et le vivant, c'est pas que l'autre être humain qui est en face de moi, c'est un ensemble.
On va aller dans le Loir-et-Cher. Ça vous dit? À côté de Vendôme, retrouver Pascal, qui est traiteur, fidèle des grandes gueules lui aussi. Bonjour Pascal.
Ouais, bonjour les grandes gueules.
Alors, est-ce qu'il a raison, Émeric Caron? On travaille moins, on consomme moins, on produit moins, dites-moi.
C'est ça, ouais, bien entendu. Ouais. Bon, moi j'ai juste une question à poser. On fait comment pour payer la retraite? On fait comment pour financer l'hôpital? On fait comment pour payer des flics? On fait comment pour payer des enseignants? On fait comment? Je veux dire, la décroissance, ça détruit de l'emploi. Vous voulez un endroit où il y a... Je vais vous donner un pays où la décroissance est géniale. Venezuela.
Exactement.
Ah, ça faisait longtemps que...
Venezuela. Non, arrêtez.
La mythe de Jean-Luc Mélenchon.
Arrêtez. Venezuela, là où vous avez la décroissance.
C'est vrai que c'est pas la CIA qui fout le feu là-bas.
Mais Pascal, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut produire autrement? Qu'il faut pas continuer à produire, par exemple, l'élevage intensif, que c'est un modèle qui doit se terminer?
Non, la production, je suis désolé, je vais dire quelque chose qui va choquer, mais c'est la réalité. Le gaspillage, ça crée de l'emploi. Point final. Moi, je vous explique un truc. Oui, c'est vrai, mais c'est la réalité.
Ah, c'est mieux.
Le gaspillage crée de l'emploi.
Il s'explique.
Laissez-le. Moi, je produis un produit. Demain, on dit, monsieur, on est dans la décroissance, il faut que vous produisiez 25% de produits en moins. Ok. Monsieur, bon, je reçois tous mes salariés, je dis écoutez, je dois produire 25% au moins, donc écoutez, faites votre choix, mais il y a 25% des personnes ici qui vont se retrouver au chômage. Mes fournisseurs, je vais leur dire, ah non, attendez, le fournisseur va venir me voir, il va venir, monsieur, vous achetez, non, j'achète 25% en moins, parce qu'on m'a dit qu'il fallait qu'on produise moins, 25% en moins. Mes fournisseurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir tous ses salariés, il va dire, écoutez, je suis désolé, mais aujourd'hui, je vais mettre 25% des personnes au chômage parce que je suis obligé de produire 25%, etc.
Vous savez qu'au cours de l'histoire de l'humanité, il y a des métiers qui ont disparu, il y a des métiers qui ont disparu au profit d'autres emplois. Et peut-être que vous avez des éleveurs qui ont envie d'élever autrement les animaux. Vous avez peut-être des agriculteurs qui ont envie de cultiver autrement la terre. Et vous avez peut-être des traiteurs qui voudraient produire des produits alimentaires de meilleure qualité et peut-être effectivement en moins grand nombre, mais de meilleure qualité.
Il faut quand même nourrir tout le monde aussi.
Tout le monde, parce que tu crois que les gens ils vont crever la dalle parce qu'ils mangent pas un beefsteak haché tout pourri plein de soja tous les jours.
Mais si on applique ce que dit Caron, effectivement, c'est de nouveau les gens qui vont mourir de faim, ça c'est sûr. Il faut produire pour tout le monde.
Pascal pointe quand même la méconnaissance réelle des circuits économiques, des logiques d'interdépendance dans la mondialisation, y compris pour la production alimentaire, de ces députés d'extrême gauche souvent. Il y a quand même une totale déconnexion. Ces gens-là sont des bobos parisiens. On a l'impression que tout ça est un peu magique.
On peut citer notre ami.
Louis Boyard, notre ami qu'on connaît bien. J'entendais dire la dernière fois, permaculture, c'est génial, même pour les céréales. Ça n'existe pas. Il dit, on peut embaucher 300 000 agriculteurs en faisant ça. C'est des gens qui ne connaissent pas.
Alors, excuse-moi,
qui vivent en ville.
Tu ne vas pas comparer Émeric Caron qui a travaillé ses dossiers.
Ils sont dans le même groupe, à la NUPES.
Non, ça fait 20 ans qu'Émeric Caron travaille là-dessus. Tu ne vas pas me comparer ça avec Louis Boyard qui ne connaît rien à rien.
Excuse-moi.
Non, mais ça, c'est pas parce qu'à la NUP, il y a tout, il y a tout à boucher.
Je remercie Pascal d'avoir été.
Pascal,
on a compris que vous étiez contre. Voilà. Au moins, c'est clair. Je vous souhaite une bonne journée, Pascal. À bientôt dans les GG du Loir-et-Cher. On va aller dans les Hautes-Pyrénées. Retrouver Maxime, qui est vétérinaire. Bonjour, Maxime.
Bonjour.
Vous êtes plutôt, vous, sur cette tendance. Moins produire, moins consommer, moins travailler.
Ouais, non, moi je pense que déjà il faut modifier un peu notre manière de consommer. C'est sûr, je pense qu'on consommait peut-être trop de viande avant, mais il faut arrêter avec le côté extrême de il faut plus rien consommer, machin, tout ça. Je pense qu'il faut consommer plus intelligemment.
On est d'accord.
Privilégier le circuit court.
C'est pas ce qu'on a dit.
Voilà, avec, enfin, moi, ça m'agace d'avoir des discours d'extrême, enfin, où on essaie de tous être les uns contre les autres, là.
Oui,
moi, je pense qu'on peut vraiment tous s'entendre et je suis désolé, mais moi, les éleveurs que je côtoie tous les jours, il n'y a pas d'élevage intensif. Enfin, j'ai travaillé voilà.
Ça n'existe pas en France.
Non, mais 96%.
Mais si,
les élevages intensifs, ça n'existe pas en France. C'est un fantasme, Barbare Lefebvre.
Allez-y, Maxime. Ils ont fait dans le Nord.
Attends, laissez, continuez, Maxime, pardon. Maxime.
Il est parti.
Ouais,
c'est 96%, je suis navré, 96% des porcs sont élevés sur le modèle de l'élevage intensif. 84% des volailles, c'est l'élevage intensif. 99% des lapins, c'est l'élevage intensif. Et 60% des chèvres, c'est l'élevage intensif. C'est des chiffres qui sont validés par le ministère de l'Agriculture lui-même, parce que le modèle de l'élevage intensif, c'est celui-là. Moi, je suis désolée, mais moi, que vous vouliez manger de la bouffe qui vient de l'élevage intensif, il n'y a aucun problème. Allez, vous êtes dans l'ignorance sincère, c'est-à-dire vous ne voulez pas voir exactement comment sont produits ces animaux et comment est produite cette viande. Vous, vous dites, non, moi, je regarde la pub là avec la petite biquette qui se promène dans l'herbe et les petites poules qui font cote-cote. Si vous voulez croire ce que vous vend l'industrie agroalimentaire, croyez-le, je suis désolée.
Alors attendez, on revient vers Maxime.
C'est marrant parce que les gens qui défendent ça, c'est les gens, il n'y en a aucun qui vit dans la France rurale.
Parce
ni
que
Louis Boyard, ni Émeric Caron, mais
t'es déjà allé dans un abattoir, t'es déjà allé dans une ferme, t'es déjà allé visiter.
J'ai passé 5 ans en Haute-Vienne, dans un territoire super rural, dans les lycées agricoles, auprès des agriculteurs, enfin, qui racontent. D'abord, j'ai vu ce que tu ne racontes pas. Et par ailleurs, ce sont des gens qui sont hyper engagés, y compris pour la transition écologique, qui connaissent mieux la nature que toi, qui ont déjà dans leur pratique complètement fait la transition.
C'est pas ça
et donc,
dit.
Toi, tu parles de choses sur tous les sujets.
Mais quelle est la réalité aujourd'hui de l'industrie agroalimentaire? Tu la connais, la réalité de l'industrie agroalimentaire? Ce n'est pas de la vie théorique quand je te dis 96% des porcs dans l'élevage intensif.
Qui ne veut rien dire.
Je parle pour les 96% de porcs qui vivent dans l'élevage intensif.
Mais il sort d'où ton chiffre?
Mais c'est les chiffres officiels. C'est quoi l'élevage aujourd'hui? Tu as des porcs. Parce que tu as 96% des porcs en France qui vivent dehors. Ils vivent enfermés dans des stabulations sur du béton.
Mais vraiment,
donc arrêtez, c'est vous qui vous parlez de quelque chose que vous connaissez pas, excusez-moi.
L'agriculture française avec d'abord l'agriculture européenne.
Que c'est
tu verras qu'on n'est pas si mal positionné. Va dans des pays, va au Brésil, va dans des pays qui
mais
sont vraiment
hyper intensifs. Je m'en fous du Brésil. Je suis en France, je m'en fous du Brésil. L'élevage au Brésil, c'est l'horreur.
Une situation atroce en France qui n'existe pas.
Mais si, ça existe, bien sûr que si. T'as été voir les élevages de lapins?
Moi, je suis allé.
T'as vu les élevages de lapins, l'élevage intensif de lapins?
Je te dis pas que le modèle français, il est pur et parfait. Je te dis qu'il est en très grande transformation et que comparativement à d'autres modèles européens et mondiaux, il est bien plus vertueux.
Ouais,
alors,
un peu
toi, tu refuses de voir ça. Tu
Maxime, allez-y, Maxime, parce que la liaison avait coupé, donc on vous a retrouvé.
Ouais,
finissez votre explication.
J'ai mon téléphone qui marche pas très bien. Non, mais c'est juste pour vous expliquer, là, moi, par exemple, la situation à laquelle je suis aujourd'hui, pour vous dire à quel point, quand même, je suis bien placé pour parler de l'élevage. Là, j'ai mes bottes, ma blouse, j'ai des veaux devant moi qui sont. Ils sont quoi? Il y a 6 veaux dans une case qui fait 20 mètres par 5 mètres, la paille elle est nickel. Enfin, il faut arrêter avec en pensant que tous les élevages sont des élevages intensifs. Moi où je travaille, on a
bah
à peu près 8000 bovins. Ben oui, mais non.
Et voilà, vous parlez des bovins.
C'est la réalité, Barbara.
Laissez-le finir.
J'ai des bovins dans ma clientèle, je fais de la volaille. Si vous voulez, j'ai un élevage à 200 mètres de notre clinique où il y a 200 poulets, ils sont tous dehors, ils ont tous accès à l'extérieur. Enfin, il faut arrêter.
Non, c'est parce que mes chiffres, ils sont exacts, 84% des volailles. Et vous parlez des bovins, parce que c'est toujours facile de parler des bovins.
Attends, allez-y, Maxime.
Ça, c'est la réalité, Maxime.
Mais non.
Attendez, laissez-le finir.
Si, je suis désolé, parce que moi, j'y suis tous les jours, dans cette réalité-là. Il faut arrêter de croire.
Mais vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, peut-être que votre patelin, c'est pas la réalité.
Je pourrais vous dire ça.
En fait, tu me tords le cou à la réalité.
Je surtout, vous respectiez Maxime et qu'il puisse terminer, bon Dieu. Allez-y.
Voilà. Je suis désolé, moi j'ai travaillé dans le Limousin, j'ai travaillé en Bretagne, j'ai travaillé ici dans les Pyrénées, j'ai quand même travaillé dans beaucoup d'endroits en France, dans des endroits où il y a beaucoup d'élevage. Et je suis désolé, mais le bien-être animal aujourd'hui est au centre de l'intérêt des éleveurs, de l'intérêt des vétérinaires.
Bah oui, de la FNSEA.
Tout ça. Ouais. Il faut arrêter de faire croire.
Et des vétérinaires complices des agriculteurs aussi et des éleveurs, bien sûr que oui.
Tu le traites de voyou, quoi.
Mais je suis désolé, les vétérinaires qui après des alertes viennent et vous disent, mais non, il n'y a aucun problème, on respecte le bien-être animal dans les stabulations, madame Lambert.
Écoute. Je veux dire que tous les vétérinaires sont.
J'ai dit que certains vétérinaires, oui, je le reconnais.
Il faut absolument que vous vous excusiez pour toute la
question. Je m'excuse pas. Il y a des vétérinaires, y compris des vétérinaires de la DDTP, qui viennent ensuite faire des contrôles et qui disent non, aucun problème dans cet élevage, les truies en stabulation, aucun problème. Non, je suis désolée.
Les éleveurs, les vétérinaires.
Je dis certains. J'ai dit certains vétérinaires et certains éleveurs.
Alors, Bruno, qu'on a plus entendu. Merci, Maxime, Max des Hauts-de-Pyrénées.
Non, mais je pense qu'on a un peu dévié du débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui.
T'as envie de venir vers nous?
Ben, je suis à deux doigts, parce que Bavara me fait peur des fois. Mais je l'aime beaucoup, mais elle me fait peur. Non, mais je pense qu'on a dévié du débat. Je pense que le débat aujourd'hui, il était aussi sur le moins consommé, sur le moins travaillé. Et voilà, on est dans le mieux. Moi, tout à l'heure, je vous ai pas parlé d'une société où fallait tout. Non, et je pense qu'à un moment donné, et le Covid vous l'a montré, que je pense que, il faut qu'on change, parce que si on ne change pas, on va dans le mur. Et le monde qu'on va laisser aux gamins de 15 ans qui sont dans la rue à côté de moi tout à l'heure.
T'as raison là-dessus, mais c'est engagé.
Ouais, mais c'est engagé. Mais
et la France,
on est d'accord.
Mais pour ça, il faudra de l'argent. Parce que.
L'argent, t'en auras si tu fais travailler plus de personnes. Tu le sais, ce que j'ai dit tout à l'heure.
Pour inventer des nouvelles façons de consommer, de produire, surtout, il faut de l'argent. Parce qu'il faut de la technologie.
Olivier,
il faut des ingénieurs.
Olivier, tu t'entends pas depuis des années que je te le dis. Le CICE,
c'est moins d'argent.
Le CICE, c'est 40 milliards que tu donnes à des entreprises qui embauchent pas.
Ça, c'est la
la gauche.
Les gens pour qui
mais parce qu'à un moment donné, c'est. Non, moi, j'ai jamais voté, je t'ai expliqué. Les 35 heures, c'est pareil. Tu mets les 35 heures sur la table et derrière, tu fais pas d'incitation à embaucher. Et donc, ils ont
c'est
pas embauché.
Parce que ça se décrète pas l'embauche.
Mais non, mais vous êtes.
Dans le privé, ça marche pas comme ça.
Mais si, ça se décrète.
Je crois que t'es mûr. Je crois que t'es mûr.
Elle était méchante, là.
Mais non, c'est parce que j'entends des contre-vérités absolues.
Mais c'est normal, c'est des bons parisiens.
Regarde tous tes animaux à l'air libre qu'on entend.
Vous êtes en famille avec Caron, les deux.
Mais moi, j'ai aucun problème. Les gens peuvent manger de la viande et au contraire qu'ils en mangent, mais ils mangent de la viande véritablement traçable et pas seulement traçable depuis leur abattage.
Ils ont envie de monter.
Comment ils ont grandi. Comment on n'a pas arraché un veau à sa mère.
C'est fini. On va regarder le résultat, le GG7 des matchs. Alors, qui a gagné? Moins produire, moins consommer, moins travailler. Est-ce que ça s'est inversé? Non, 56-44.
C'est déjà bien 44%.
Je vais vous dire. Sois honnête. Moi, tous mes fans, ils sont dans la rue, ils risquaient pas de voter. Donc là, je pense qu'on était à 80%.
Ils ont pas de smartphone dans la rue.
On va se dire clairement.
C'est sûr, ils ont pas voté. Moi, ils sont
moins 44% des gens qui consomment différemment. Mais 44%, on sauve la planète.
C'est un beau score.
44%, ça me suffit largement.